Je retrouve mon prochain invité que hier j'ai appelé Monsieur Martin Thériault. Là, on me dit que c'est Marty. Tranquillement, pas vite, je m'en viens. Là. Comment ça va, Martin? Est-ce qu'on peut y aller comme ça? Demain, on va tomber à Marty?
Vas-y comme tu veux, Jasmin. Martin, Marty, je suis habitué à tout.
Ouais, bon, on devient intime, là, tranquillement, un peu au fil des jours. Là. J'ai pas fait 2000 podcasts avec toi comme Anthony Desauniers en a fait, là, mais tranquillement, ça s'en vient. Là.
Ouais, non, mais écoute, c'est ça. Ben, écoute, mon nom, c'est Martin. Disons, mais c'est drôle parce que mes amis en dehors du sport m'appellent Martin, là. Mais c'est disons que ça date de l'époque de TVA Sport, là. C'est Marty.
ben, OK, on va y aller avec Marty d'abord. Marty, il y a pas nécessairement beaucoup d'actualité dans la Ligue nationale de hockey. On s'est préparé une petite chronique aussi sur des espoirs du Canadien. Mais juste avant, parlant d'espoirs du Canadien, j'en ai parlé en début d'émission. Il y a une ancienne légende des Canadiens, Nathan Beaulieu, qui a pris sa retraite. Je pense qu'on aurait pu faire une émission spéciale complète. On s'est retenu finalement, là. Mais j'aimerais ça quand même, par curiosité, savoir ce que tu gardes comme souvenir. Évidemment, ça n'a pas nécessairement été un grand choix pour le Canadien, mais je ne sais pas si tu te rappelles du contexte quand il avait été repêché à ce moment-là, et qu'est-ce que tu avais pensé de cette sélection-là à l'époque pour au final en faire le portrait des années plus tard et se dire que ça n'a peut-être pas été le meilleur choix du Canadien, mais il avait été choisi quand même 17e au total à l'époque en 2011.
Ouais, puis tu sais, ben justement, tu fais bien de mentionner du contexte, et justement, on regarde ça un peu par la suite, et on se dit, bon, c'est pas une grande sélection, mais je me souviens qu'à l'époque, Nathan Beaulieu, c'est quelqu'un qu'on parlait comme un espoir top 10 qui avait glissé dans le repêchage 2011. Les Canadiens avaient mis la main sur lui au 17e rang. Moi, je me souviens, à l'époque, j'avais vu ça, je m'étais dit, OK, wow, on a quand même un joueur, premièrement, de la LHMQ, un produit qui venait justement de gagner la Coupe Memorial avec les Dogs de Saint-Jean, jouait avec Jonathan Huberdeau et compagnie. Donc, tu disais, bon, ben, c'est quand même assez incroyable. Mais je pense que Nathan Beaulieu, à quelque part, c'est je pense qu'il te montre deux leçons un petit peu avec les espoirs un petit peu. Puis je pense qu'on l'a vu un peu plus dans les années suivantes. C'était compliqué aussi à analyser en 2011, là. C'est à quel point le sens du jeu, l'intelligence sur la patinoire et je dirais de prendre au sérieux un petit peu ton aspect hors glace, ton entraînement. C'était des choses comme ça. Je pense que c'est là peut-être qu'un Nathan Beaulieu, ça retient un petit peu l'attention. Bon, pas nécessairement qu'il était pas là au niveau physique. C'est quand même quelqu'un qui était fort, c'est quelqu'un qui était capable de jeter les gants à l'occasion. Mais tu sais, parfois manquait peut-être, tu sais, dans ce qu'on entendait à gauche et à droite, manquait peut-être un petit peu de sérieux et tout ça. Donc je pense qu'à quelque part, Nathan Beaulieu, là, c'est peut-être ce qu'on peut retenir. Parce que le talent ne faisait pas de doute. C'est quelqu'un qui bougeait très, très, très bien la rondelle, qui était vraiment incroyable au niveau de la créativité offensivement. Mais c'est ça, là, peut-être qu'il manquait un peu plus de prise de décision avec la rondelle. Puis dans la LNH, t'as moins de temps de réaction, ça paraît un petit peu plus.
Moi, je me souviens surtout que son surnom, c'était Nate the Great à l'époque.
Ouais. Le seul et unique Great.
Martin, on va revenir un peu plus à ce qui se passe en 2025. Dans quelques semaines, le camp d'entraînement du Canadien va commencer. On s'est posé la question, toi et moi, de certains espoirs qui vont être en lutte au camp des Canadiens qui va commencer dans 6 semaines, dans plusieurs postes évidemment, certains à la défense, certains davantage en attaque, peut-être qu'en commençant à l'attaque, un gars comme Oliver Kapanen, qu'est-ce que tu penses que ce gars-là a comme plafond au camp d'entraînement cette année? Je parle pas nécessairement de sa carrière pour dans 15 ans, mais c'est quoi le maximum qu'il pourrait aller chercher pour lui cette année? Est-ce que c'est d'être un centre de 4e trio cette année avec le Canadien? Je sais que Grant McHagg parlait d'une option sur le 2e trio, moi personnellement j'y crois pas là, pour cette année, là.
Non, 2e trio, je pense que c'est un peu trop intense et tout ça. T'sais, il faut quand même pas que tu oublies Kirby Dack. Je comprends qu'il a été blessé, je comprends qu'il est moins dans les bonnes grâces des partisans des Canadiens et tout ça, mais ça demeure un centre de 6 pieds 4 pouces, ça demeure quelqu'un qui a du talent et tout ça. Je pense que c'est la meilleure option pour jouer avec Patrick Laine et Ivan Demidov. Cependant, je pense qu'un gars comme Oliver Kapanen, tu regardes un peu la formation des Canadiens. C'est sûr qu'on a acquis Joseph Veleno il y a quelques semaines, c'est sûr que c'est un joueur de centre qui est gaucher, qui est capable d'aller prendre cette position-là, mais je suis pas complètement vendu. Moi, je pense que Veleno, peut-être que c'est un peu plus un attaquant supplémentaire, peut-être un peu plus un gars que tu peux placer parfois à l'aile, mais aussi un gars comme un 13e ou un 14e attaquant. C'est là, moi, je pense que Kapanen devient important. Moi, personnellement, je le vois dans la formation des Canadiens. Est-ce que c'est 4e trio? Est-ce que c'est 3e trio? Je le sais pas. Ça va dépendre un petit peu de la chimie qu'il va trouver au camp avec Martin Saint-Louis, mais je pense que les gens sont un peu durs avec Oliver Kapanen.
Ah ouais?
Ben oui, à quelque part, c'est sûr qu'il n'y a pas nécessairement eu les moments à Montréal les plus faciles, ça je peux le comprendre et tout ça, mais regarde avec le Rocket de Laval, bon, il manquait peut-être un petit peu d'opportunisme, mais moi j'ai trouvé qu'au niveau défensif, il était quand même pas mauvais, je trouvais qu'au niveau vitesse, il était au-dessus de la moyenne, il était capable de se démarquer quand même dans les séries, et il faut pas oublier qu'à simplement 22 ans, c'est encore quelqu'un qui est tout jeune.
Même 21 ans.
Mm-hmm.
Ouais, ben en fait, il va avoir 22 ans.
Il va avoir 22. Ouais, oui, il va avoir 22 le 29 juillet, c'est dans 5 jours. Tu sais, on va lui souhaiter bonne fête à l'avance.
Ouais, c'est ça, exactement. Il va avoir 22 ans dans la semaine prochaine.
Ouais.
Donc, mais tu sais, donc, il va s'amener quand même tout jeune. C'est pas quelqu'un qui a énormément d'expérience. Il s'est jamais vraiment préparé. Tu sais, oui, il y avait le camp l'an dernier, mais on s'entend que il y avait beaucoup de chances qu'il se retourne du côté de la Suède. Donc, t'sais, oui, il y a des choses à travailler. Oui, peut-être qu'à Montréal, ça n'a pas été le joueur le plus hargneux, notamment dans les coins de patinoire. C'était peut-être pas le joueur le plus physique, mais moi, j'ai vu qu'en Suède, lorsque je le regardais, il y avait quand même une amélioration. Il y avait quand même quelque chose de plus intéressant. Il était capable de se salir un peu le nez après les sifflets et tout ça. Donc, je pense qu'avec un autre camp, son deuxième, potentiellement, là, avec le... Et là, il n'y a pas de doute. Tu le sais qu'il va commencer en Amérique du Nord, tu le sais qu'il va être à Montréal ou à Laval. Et moi, ben, je pense qu'un Kapanen, là, tu peux très bien plus le voir. Puis tu regardes les candidats avec lesquels il se bat aussi. Moi, je pense que c'est le favori pour Starry and Place avec les Canadiens.
Je t'amène sur Owen Beck maintenant. C'est un gars qui a connu une saison un peu en deux teintes avec le Rocket. J'ai eu la chance de faire à peu près tous les matchs du Rocket cette année avec RDS. En début d'année, il a été flamboyant. C'était une révélation de le voir avec le Rocket. Sa fin d'année, on a l'impression qu'il a peut-être un peu, je vais utiliser le terme manqué de gaz un peu, je sais pas si tu as fait le même constat, là, c'est peut-être dit un peu de manière québécoise, là, mais tu comprends ce que je veux dire, là?
Ouais, absolument. Ben, ça fait partie de l'apprentissage d'un joueur professionnel aussi, hein. C'est sûr qu'Owen Beck jouait dans la ROHL, donc lui, le côté des voyages, le côté de disputer beaucoup de matchs en peu de temps, il l'avait déjà vécu, mais c'est une autre chose de le faire dans les rangs professionnels. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'Owen Beck, c'est comme s'il avait pris un peu pour acquis le poste de quatrième trio, c'est sûr, lorsqu'il s'est retrouvé à Montréal. Moi, j'ai trouvé qu'il y a une grosse différence entre le avant son séjour avec les Canadiens et après. C'est comme si là, il avait commencé à jouer un peu comme un joueur défensif. Et on veut avoir plus d'Owen Beck. Moi, c'est pourquoi Beck, je pense qu'il va commencer la saison à Laval. Évidemment, c'est le principal rival de Kapanen au camp. Ils se battent à peu près pour les mêmes chaises. Et moi, c'est ça, c'est que je veux avoir plus un peu d'Owen Beck. Si on le veut en série, puis c'est normal, là, je veux dire, le Rocket de Laval avait une profondeur incroyable, mais on le voyait quand même parfois au sein du quatrième trio. Donc, tu veux qu'il grigne peut-être un peu plus. Tu parlais qu'il te fait qu'il manquait d'essence dans le réservoir un peu. Tu veux le voir en donner plus. Tu veux le voir s'exprimer un peu plus offensivement. Tu sais, je comprends que dans le rôle que tu peux le voir dans la LNH, c'est peut-être pas un Nick Suzuki ou quelque chose comme ça, mais même les joueurs de 3 ou de 4e trio sont capables d'être des gars dominants dans la Ligue américaine. Je regarde les meilleurs pointeurs du Rocket dans les dernières années, tu sais, des Brandon Gignac, des Anthony Richard, des Raphaël Harvey-Pinard, des Ryan Poehling, ce sont tous des gars qui ont été capables de produire dans la Ligue américaine et qui le faisaient moins dans la LNH, mais qui sont quand même capables de se démarquer par rapport à la moyenne des joueurs de ces rôles-là. Donc moi, j'ai l'impression que j'aimerais bien voir que Beck est capable de prendre une petite coche de plus et un peu plus de confiance. Puis ça, ben, je pense que ça passe par Laval. Là.
Mais parlons-en justement des joueurs de 3e, 4e trio qui sont dominants dans la Ligue américaine, parce qu'un autre joueur auquel beaucoup de gens suggèrent, ben, naturellement, c'est Florian Jacquet, qui a déjà à titre un peu plus de peste, qui a été très dominant avec le Rocket l'année dernière. 24 buts à son effigie, a été capable de distraire l'adversaire durant les séries éliminatoires. D'ailleurs, Logan Mailloux qui a mentionné dans le SIG podcast qu'il voyait peut-être un Florian Jacquet dans la Ligue nationale en 25-26. Comment tu perçois son rôle au camp et comment l'équipe vont percevoir Florian Jacquet là, pour la suite?
Ben, ça va être intéressant tout d'abord de voir son été. Je sais que dans les derniers jours, notamment, tu sais, s'entraînait avec les gars de la LNH et tout ça. C'est, et tu sais, Florian Jacquet, pour l'avoir déjà vu un peu en personne l'an dernier, c'est quelqu'un qui, tu sais, oui, est quand même imposant au niveau de la taille. Mais au niveau du gabarit, il y a encore beaucoup de livres à aller prendre. Donc, ça, c'est ce qui va être intéressant. Donc, voir à quel point il a ajouté du muscle à son coffre, si tu veux. En même temps, Jacquet est un peu à l'instar d'un Beck. Moi, j'aurais tendance à le renvoyer à Laval. Je comprends que peut-être qu'il peut aider au niveau physique. Je comprends que sa progression est phénoménal. Écoute, du début jusqu'à la fin de la saison à Laval, je sais pas ce que t'en as pensé, Jasmin, je sais que t'as couvert les matchs pour RDS, là.
Il a été particulier. Je suis obligé de dire que le mot licorne commence un peu à correspondre à ce qu'il est. Moi, par contre, je suis un peu avec toi. Je suis pas certain pour commencer la saison à Montréal, mais en même temps, il est vraiment particulier comme gars, mais on dirait qu'il m'en manque encore un peu pour vraiment embarquer dans le bandwagon et dire on amène ça à Montréal.
Ouais, ben c'est ça. C'est que j'aimerais qu'il travaille encore d'autres choses. Tu sais, je pense qu'avec un... Tu sais, oui, il y a l'aspect collectif, mais il y a l'aspect développement du joueur. Et je pense que Jacky, avec ce qu'on a vu l'an dernier, écoute-moi, de voir la progression offensivement, la confiance de transporter la rondelle d'une zone à l'autre, de tirer pas mal plus la rondelle, ça a été phénoménal. Donc, pourquoi pas le renvoyer à Laval? Tu sais, on s'entend, il a passé la majorité de la saison au sein d'un quatrième trio l'an passé. Donc, donne-lui l'occasion de grimper peut-être d'une ou de deux coches de plus, d'aller chercher un peu plus d'attaque. Tu sais, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, Jasmin, c'est vers la fin de la saison, lorsqu'on reposait des vétérans pour les séries et tout ça, on lui a donné un rôle offensif dans la dernière fin de semaine. Il est allé chercher 3 points en 2 matchs, mais 7 tirs au but avaient été partout sur la patinoire lors de ces séquences-là. Donc, moi, ce que j'aimerais voir, c'est que Jacky retourne en pleine confiance à Laval, qu'il soit capable d'obtenir pas mal plus de points, qu'il soit capable d'être vraiment un aspect dominant, qui est capable d'être physique et tout ça. Et là, si c'est le cas, là, si tu vois que, par exemple, il passe par-dessus un Owen Beck au niveau des prestations, là, tu le rappelleras, mais peut-être un peu plus vers l'hiver prochain, peut-être plus vers janvier ou février, pas en octobre, parce que je pense qu'il y a encore une place à amélioration. Faut pas le brûler trop, je pense.
Je regarde sur la messagerie texte des auditeurs, Grolov, bon, évidemment, je sais pas c'est quoi le vrai prénom, mais on va l'appeler Grolov, parle de Jacky en disant top 6, premier désavantage numérique et deuxième avantage numérique toute l'année à Laval. Progression qui a été rapide pour lui. Pat nous mentionne qu'il veut voir Florian Jacky sur le quatrième trio avec Samuel Blais et Jake Evans, que ce serait un bon quatrième trio. Kapanen, selon lui, l'a déçu au cours des séries éliminatoires avec le Rocket de Laval, pour revenir sur un peu ce dont tu parlais. On va conclure, Martin, avec David Reinbacher à la défense, que lui, on a hâte de voir. Et lui, dans son cas, on parle depuis tantôt de gars qu'on n'est pas certain. Moi, je pense que Reinbacher va commencer avec Montréal cette année.
Ah, moi, je suis OK. C'est intéressant, celle-là. Moi, je suis pas certain qu'il va commencer à Montréal. Je pense que la grosse aspect avec Drain Backer, c'est simplement de prendre du millage. C'est simplement de t'assurer qu'il soit capable de jouer pendant 2-3 semaines consécutives. Qu'il soit en mesure de prendre les rigueurs du calendrier, tu sais, jouer là, des 2 matchs en 2 soirs, des 3 matchs en 3 soirs, d'avoir la fatigue qui est accumulée, de ne pas avoir les fameuses enflures aux genoux qu'on a eues l'an dernier. C'est le seul aspect, je dirais, avec Reinbacher. Lorsque tu le regardes jouer, il n'y a pas de problème. Physiquement, il est prêt. C'est quelqu'un qui a trouvé une façon d'ajouter justement des touches offensives et tout ça. Moi, j'ai trouvé que dans les séries à Laval, par moment, lorsqu'il y avait beaucoup de fatigue un petit peu, là, on dirait que les prises de décision étaient peut-être un peu plus lentes. Ça faisait en sorte qu'il y avait peut-être un peu plus de revirements, c'était plus compliqué. C'est normal aussi, là. C'est quelqu'un qui était sur son année de 20 ans l'an dernier.
Ouais.
Donc, moi, je pense que c'est normal qu'il va s'améliorer. Et j'aimerais simplement le voir peut-être une 20aine de rencontres à Laval, simplement de prendre du millage, de s'assurer qu'il soit parfaitement correct. Et là, par la suite, tu pourras peut-être l'amener à Montréal. Mais pour l'instant, puis là, on verra ce qui va se passer avec Mike Matheson, mais tu sais, pour l'instant, t'as Matheson, t'as Harbert Jacky, t'as Jaden Strobel, t'as Alexandre Cailly, t'as des postes comme ça. J'aime mieux voir Reinbacher retourner occuper un poste très important à Laval, et disons que vers décembre ou janvier, peu à l'image d'un Florian Jacky, là, tu pourras le rappeler.
Je suis pas en désaccord avec toi. Je pense qu'il va avoir toutes les chances, en tout cas, de se faire valoir. Et s'il commence à Laval, je pense qu'il faudra pas trop longtemps avant qu'il monte avec le Canadien. Il est vraiment impressionnant à voir David Reinbacher. C'est un défenseur différent de beaucoup d'autres, je trouve, mais il fait plein de bonnes choses sur la patinoire que tu remarques assez rapidement, même si c'est pas nécessairement toujours le gros tir frappé ou le gros jeu offensif. Moi, je l'aime beaucoup, en tout cas jusqu'à maintenant, David Reinbacher. Je lui souhaite juste de rester en santé. Martin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve demain, puis on va poursuivre la collaboration comme ça tout au long des matins. Moi, ça me fait du bien quand même de parler de hockey au moins à 7h30 là, tous les jours. Je sais qu'on va avoir notre discussion de hockey, puis on espère avoir quelques nouvelles un peu de la Ligue nationale aussi pour agrémenter nos discussions.
Ouais, c'est sûr que ce serait bien apprécié, mais écoute, on est au mois de juillet et on parle de hockey en plein. Moi, ça me fait énormément plaisir, il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup, Martin, bonne journée.
Merci, ça fait plaisir, là.